Bienvenue dans le studio 621 de France Inter à la Maison de la Radio avec l'équipe d'Interception. Bonjour Géraldine Allot.
Bonjour Philippe Bardonneau.
Et avec Vanessa Descoureaux. Bonjour Vanessa.
Bonjour Philippe.
Vanessa, c'est à vous de choisir vos coups de cœur dans la très considérable bibliothèque sonore d'Interception. Quel est le reportage que vous souhaitez mettre en avant?
C'est un reportage dans un lieu où aucun reporter n'est jamais allé. Ça a le goût de l'inédit et vous savez comment sont les reporters. Ils veulent toujours aller là où personne ne va. Et c'est certainement pour ça qu'on l'a gardé, que je l'ai gardé en mémoire. C'est un reportage dans l'espace, excusez du peu. C'est une émission qui remonte à fin 2001. C'était bien avant Thomas Pesquet, qui était un tout jeune homme à l'époque. C'est la spationaute Claudie Ignoret qui avait fait une mission à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Et elle avait amené avec elle un mini-disque, ça aussi c'est un outil d'enregistrement d'un autre âge, un mini-disque et un micro-cravate qui avait été, pour la petite histoire, décontaminé pour être autorisé à être embarqué. Et pendant sa mission, Claudie Ignoret a enregistré ses impressions, ses commentaires à chaud, et elle a raconté ce qu'elle voyait tout là-haut. Je précise juste que nous sommes à 350 km au-dessus de nos têtes, voilà pourquoi c'est magique.
Et c'est Sophie Bécherel, hein, la spécialiste science de France Inter, qui a eu l'idée de ce reportage et qui a convaincu Claudie Ignoret. Le nom de ce reportage, c'est Reporter Spatial et il a été diffusé pour la première fois le 18 novembre 2001.
Interception. Bonjour. L'émission que vous allez entendre est exceptionnelle. Elle a été tournée dans l'espace, à 350 km au-dessus de nos têtes. L'astronaute Claudie Ignoret, qui est devenue il y a quelques semaines notre nouveau ministre de la Recherche, avait accepté d'être notre reporter spatial. Nous lui avions donné un mini-disque et un micro-cravate qui avait été décontaminé pour qu'elle enregistre sa vie dans les étoiles. Du 21 octobre au 1er novembre 2001, Claudie Ignoret a passé 10 jours dans l'espace, dont 8 à bord de la nouvelle Station Spatiale Internationale. Dans un environnement sonore de bruit et de fureur, ou dans le calme de la nuit céleste, c'est un mélange de rêves et d'aventures humaines que Claudie Ignoret va maintenant nous raconter. Le décollage de la fusée Soyouz, les 2 jours coincés dans la capsule, avant de rejoindre la maison de l'espace où se trouvaient 2 Russes et 1 Américain, le nez collé au hublot pour regarder la Terre et les expériences scientifiques, les pieds en l'air, et puis le retour sur le plancher des vaches dans les steppes arides du Kazakhstan. C'est là qu'Interception a récupéré ses enregistrements avec la complicité du CNES, le Centre National des Études Spatiales, et c'est là que nous retrouvons Claudie Ignoret, souriante, émergeant de la capsule noircie par la rentrée dans l'atmosphère.
Подальше, подальше.
Всего доброго.
Вы не все съели, все нормально.
Так, ну-ка давайте назад. Все, назад.
Правильно.
Я буду убирать.
Так, все, правильно.
Ну, ой,
Быстренько, быстренько, пока
есть.
Вышки нет.
La première fois, j'avais été un peu surprise. Et là, j'attendais les choses. J'ai trouvé ça...
С кем?
Bon, sportif, hein. C'est quand même sportif. L'ouverture du parachute. Et le contact au sol. Bon, j'aurais préféré qu'on s'arrête sur le fond de la capsule plutôt que de tourner sur le côté comme ça, parce que j'étais pas très à l'aise coincée sous mes 2 collègues. Mais au total, très bien.
Ah, пожалуйста.
Подальше, подальше.
Я же. Поздравляю вас.
Спасибо.
Я слышал, как вы говорили.
J'ai bien mieux aimé la deuxième fois que la première,
ouais.
Pour la descente. Hein. C'était rigolo ce parachute.
Oui, parce que tu.
Parce que je savais ce que c'était.
T'as vu comme c'est progressif.
Oui, cache-moi ça sous le casque.
Quoi?
Cache-moi les cheveux sous le casque. Oui, il fait pas très froid. Et t'as nié ta croix là-dedans. Il y a dommage ça.
Comme d'hab.
Comme d'hab. Non, mais je me suis dit. J'ai une faim de loup. On n'a pas le temps de manger.
Ça, on est parti. On a tout. Il y a à manger.
On est parti là.
On va manger sous la tente. Qu'est-ce que je veux dire? Le parachute, c'était costaud.
Ah oui, mais rigolo.
T'as rien à me donner?
Non, les gants, je vous ai donné là. À le retour, je trouve ça plus intense que la mise en orbite. La mise en orbite, elle a été très très soft, c'est très doux. On a... Même qu'Ossia disait, j'ai l'impression d'avoir pris l'avion plutôt que qu'une fusée. Non, c'est vrai que c'était très doux, je ne sais pas, un carburant peut-être de très bonne qualité. Là, et la descente, c'est plus sportif parce que l'ouverture du parachute, l'entrée dans le plasma, il y a quand même des accélérations qu'on sent bien, 4G et demi. En plus, pour bien centrer le vaisseau, ils avaient décidé de me charger moi plutôt, puisque j'étais poids léger. Donc j'avais non seulement les accélérations, mais en plus des charges maximum sur le vent. Mais ça va, non, ça dure pas très longtemps. C'est bon, c'est quelques minutes et c'était bien. Mais c'est vrai que le connaissant, l'ayant déjà vécu une fois, je l'ai beaucoup mieux vécu. Enfin, sans appréhension, j'attendais les choses plutôt avec plaisir pour les redécouvrir une deuxième fois.
10h59, ce mercredi 31 octobre. Suspendue à un parachute rouge, la capsule Soyouz, complètement noircie par la traversée de l'atmosphère, dépose dans la steppe kazakh Claudie Aigneré et ses deux coéquipiers russes. Nous sommes à 450 km de Baïkonour, d'où ils ont décollé 10 jours plus tôt. Il fait moins 10 degrés, mais comme d'habitude, on se presse pour accueillir l'équipage. 9 hélicoptères, 300 militaires, une poignée d'officiels russes, des scientifiques français et le mari de Claudie, Jean-Pierre Aigneré, qui est astronaute lui aussi. Installée dans le siège de gauche, Claudie est la dernière de l'équipage à s'extirper de la capsule. La descente est la phase la plus éprouvante du vol, mais Claudie est radieuse. Elle semble comblée par son deuxième séjour dans l'espace et physiquement très à l'aise. Elle se dirige vers une tente pour les premiers examens médicaux et les premiers récits du vol. Quelques heures auparavant, elle était encore dans la Station Spatiale Internationale à jouir des sensations et du spectacle incomparable qu'offre un voyage dans l'espace.
Il est 8h15, 20h15, heure de Greenwich. On doit avoir fermé l'écoutille à 1h30. C'est-à-dire dans 1h30, à peu près. Et je viens de me faire un grand plaisir. On avait du temps libre, là, qui était normalement consacré au sommeil. Mais en fait, j'ai pas dormi du tout et personne d'entre nous n'a dormi. On s'est réveillé plus tard ce matin. C'est pas un problème. Mais je me suis fait un grand plaisir. Mais je me suis accordé toute une orbite au grand hublot du laboratoire Destiny. Avec mon appareil de musique, mon mini-disque avec Mozart, concerto 21-22. J'ai commencé par la nuit, éclairée de milliers d'étoiles, dans un cosmos tout noir, c'était magnifique. Au fur et à mesure, les étoiles de plus en plus nombreuses, et la Terre qu'on voyait de moins en moins disparaître complètement, puis un cosmos noir complet. Et ensuite le jour qui commence à se lever. Progressivement, on sort de la nuit pour se précipiter à 28 000 km/h dans le jour. On voit bien cette distinction entre jour et nuit à la périphérie de la Terre. Au-dessus de la Terre. Mais je regardais devant moi, je voyais en fait la Terre au-dessus de moi, et ce qui était mon horizon, ce qui était mon horizon normal si j'avais été comme sur Terre, en fait c'était le cosmos, et à l'horizon du cosmos, je découvrais la Terre bleue, cette planète bleue. C'est vraiment, vraiment magnifique, émouvant. On peut reconsidérer le monde en miroir. Un peu cette image-là qui me venait avec cet horizon du cosmos qui était notre Terre. C'est peut-être un peu comme ça qu'on peut la voir, nous, terriens. Et je crois que c'est bien que la station spatiale, avec l'homme à bord, puisse permettre ça, de s'éloigner de la Terre pour avoir sur la Terre un regard à distance. Alors que quand on a les pieds sur Terre, c'est vrai que on peut rêver aux étoiles. Là, c'est un peu l'inverse. On est dans les étoiles et on rêve de cette Terre. Elle est vraiment très particulière, bleue, lumineuse, dans l'infini noir du cosmos. Et on se dit que sur cette planète, l'homme vit. Et on en voit les traces. On voit, quand on vient de traverser justement le Canada, ces multiples champs bien tenus, cette façon de mettre en place la culture sur ces zones du nord de l'Amérique, du nord. La trace de l'homme, elle est là, les feux, peut-être complètement naturels. Un peu partout, il y en a un peu partout sur toute la planète, en nombre plus ou moins limité, mais c'est pas parce qu'il y en a moins qu'ils sont pas plus volumineux, avec des panaches de fumée immenses sur des centaines et des centaines de kilomètres, c'est impressionnant. Les fleuves qui se jettent dans les mers, en mélangeant leurs eaux un peu boueuses, on voit ça pénétrer dans l'eau de la mer, très très longuement, et diffuser. Les phénomènes météorologiques, tout nous passe sous les yeux. Il y a des choses à voir, il y a des choses à regarder, en tout cas je ne sais pas si on les voit toutes, mais on en voit beaucoup, on a beaucoup de chance, très privilégié. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir pu consacrer 7h30 à un peu de magie, la magie de l'espace. Calmement, on a tous été surpris par la régularité, sans à-coups, sans accélération latérale, des accélérations tout à fait supportables pour chacun des étages à 3G et demi. C'était très très doux comme décollage. J'ai un souvenir du précédent qui était un tout petit peu plus perturbé, mais celui-ci vraiment, les 3 étages se sont succédés tranquillement, plavna, comme on dit en russe, c'est-à-dire très régulièrement, sans à-coups.
Il faut 8 minutes au vaisseau Soyouz pour gagner la première orbite en apesanteur. Ensuite, les cosmonautes ouvrent l'écoutille au-dessus de leur tête pour rejoindre le bloc orbital, un espace plus grand où ils passeront 2 jours avant d'atteindre les 400 km d'altitude de la station, orbite par orbite. Débarrassés de leur scaphandre pressurisé, en simple combinaison de travail, ils devront vérifier les paramètres de vol, tenir informé le centre de contrôle de Moscou et débuter la série d'expériences scientifiques. Un programme assez léger, dans un confort relatif et un environnement plutôt bruyant, rythmé par le clac-clac des écoutilles.
Tout va vraiment très bien, on se sent bien. C'est vrai qu'on est un petit peu impatient quand même d'arriver à la station, parce que les conditions de vie dans ce bloc orbital, c'est vraiment du camping quand même. À 3 personnes, on peut y vivre les 2 ou 3 jours, mais quand même pas beaucoup plus. On n'a pas d'eau chaude, on mange des choses très 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 sèches. De la nourriture, pratiquement pâte de fruits, fruits séchés, chocolat, gâteau, puis quelques petites conserves, mais hyper desséchées. Bon, tout ça s'explique parce qu'on n'a pas toutes les commodités dont on pourrait disposer dans un appartement rêvé. Et donc c'est pour ça qu'on attend quand même avec impatience d'arriver dans la station. Mais ça nous permet tout tranquillement de nous adapter tout à fait bien quand on va arriver à bord.
Quand est-ce? Сколько?
УБ 700.
700 УБ.
У нас сколько? У нас 750.
Ага.
Так что, не открылся, что ли? Открыт этот?
Открыт.
Des problèmes de condensation d'eau hier soir et un petit peu d'élévation des gaz carboniques. On avait envie d'avoir des nouvelles du sol, de la télémétrie. Nous, on s'est bien rendu compte que ça s'est amélioré. On a chauffé très fort hier, donc on a bien dormi au chaud, en fait. Il y a des choses qui sont importantes pour dormir. Moi, j'avais fait monter dans mes affaires personnelles des petites chaussons fourrées. Et j'ai dormi avec mes petites chaussons fourrées, j'ai eu chaud aux pieds, alors que eux, ils n'ont pas eu très chaud. On en pensait à tout, hein. Quand on a de l'expérience, on s'en sort mieux sur le plan pratique. Et puis ce matin, donc réveil, 5h50, on range nos sacs de couchage qui sont éparpillés dans le BO, avec les scaphandres également. Et puis on est passé à la toilette, j'ai commencé, puis mes deux amis sont en train de le faire, ce qui me donne un petit peu de liberté pour parler. Et puis je crois qu'ensuite on va se mettre au petit déjeuner. Notre prochaine liaison d'audio est à 7h21, il est 6h58. On a presque le temps de commencer le petit déjeuner.
Cette porte devrait s'ouvrir très rapidement. Alors, vous entendez Soloviov, directeur du centre de contrôle, envoyer ses ordres à l'équipage. Et voilà, vous voyez, l'ouverture est en cours. La porte devrait bientôt s'ouvrir. Le sol... la possibilité d'ouvrir ce sas. Voilà, le sas s'ouvre. Claudy entre dans la station internationale, la première européenne, où elle va réaliser le premier programme scientifique européen et commencer ainsi l'utilisation européenne de cette station internationale.
Hey guys!
Hello.
How are you?
Hello. Hello.
Hi, how are you?
Welcome. We're gonna go this way.
Thank you.
Come on in. Welcome, guys.
Hello.
Very glad to have you here.
That's nice to
Happy
see
to be
you.
Here.
Yeah, sure.
Welcome to space.
Приветствую, Михалыч.
We set up in there.
Yes, yes. Solovyovsky said, let's go first of all to the
Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven.
ça a été un grand moment de retrouver justement les amis qui avaient préparé notre arrivée, d'abord avec les caméras pour montrer tout ça au sol, qui nous attendait avec impatience, et puis avec un grand sourire et l'organisation d'une petite fête le soir pour fêter notre arrivée. J'étais très heureux de nous voir, parce que c'est un équipage qui n'aura pas de visite. D'ailleurs, ils ont été amenés ici à bord par un shuttle au mois d'août. Et puis depuis, ils n'avaient vu personne. Et ils vont repartir en novembre ou décembre sans avoir vu d'autres visiteurs que nous. Donc ils étaient vraiment très très contents de nous avoir auprès d'eux. Et nous, bien sûr, on était ravis d'arriver, ravis de découvrir cette station. Alors, on s'est donc retrouvés, échangés les souvenirs, ce qu'on leur avait monté, les légumes frais, les fruits frais, les lettres, les petits cadeaux. Nous, on a commencé à s'installer, à vider notre vaisseau, le TM-33 avec lequel on est arrivé, puisqu'on va rentrer avec le TM-32, le vieux vaisseau. Donc, on a des procédures de sécurité, on change les sièges, on change les vêtements qui sont à bord pour que nos vêtements de survie pour le retour, tous les éléments de survie qui sont dans les containers. On change tout ça, on le met dans le vaisseau avec lequel on va revenir, on fait notre, le vaisseau TM-32, qui est le vaisseau avec lequel on va rentrer dans quelques jours. Et on doit se réfugier si quelque chose survient dans la station.
Oui, tu vois.
Cette mission, baptisée Andromède, est en effet une mission taxi. C'est-à-dire que les trois cosmonautes doivent remplacer l'ancien vaisseau, le TM-32, par un nouveau. Pour l'équipage permanent, c'est comme un canot de sauvetage. Ces engins sont le seul moyen pour eux de rentrer sur Terre en cas d'urgence. Mais la durée de vie des Soyouz n'est que de 6 mois. Il faut donc procéder à cette manœuvre 2 fois par an. Et c'est Claudie, en tant qu'ingénieur de bord, qui supervise aujourd'hui cet échange de vaisseaux.
Alors nous sommes le 24 octobre, donc nous sommes arrivés dans la station hier à 13h40, le contact, l'amarrage avec la station, mais c'était en heure de Moscou d'hiver. Et alors là maintenant je suis un peu perdue dans les heures parce qu'on est passé en heure de Greenwich à bord de la station, donc il est 18h30 ce soir. Après une journée de travail bien remplie, donc en fait, ça fait quand même déjà beaucoup plus qu'une journée qu'on est ici. On a eu un petit peu de retard hier, non pas vraiment à l'amarrage, mais après les contrôles d'étanchéité des différentes écoutilles qui nous séparent de la station. Et nous, on avait un petit doute, et bien évidemment, on ne peut pas prendre de risque d'ouvrir le contact avec la station si on n'est pas sûr que tout est bien étanche. Puis ensuite, on a eu un petit problème d'ouverture de l'écoutille elle-même, ce qui fait qu'on est arrivé un peu en retard à la liaison où on nous attendait.
J'entends rien du tout. Bonjour, Claudie. Catherine Potier, France Info. J'aimerais savoir est-ce que Claudie peut nous décrire ce qu'elle voit depuis 3 jours et est-ce que ses sensations, sa perception de l'espace a changé par rapport à 96.
Alors effectivement, j'ai eu cette impression de m'adapter beaucoup plus vite. En particulier, contrôler la locomotion, la façon de se déplacer, prendre les choses. J'ai tout de suite retrouvé le rythme, le tempo. Pas trop vite, pour pas se laisser, pour pas déranger les objets autour de nous. Et ça, il m'avait fallu du temps la première fois. Par contre, prendre ses repères dans un immense bâtiment comme celui-ci, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire et j'ai un petit peu les mêmes difficultés que celles que j'avais en 96. Par contre, l'utilisation, les petits gestes de la vie quotidienne, se laver, boire, ouvrir sa boîte de conserve, prendre le pain, tout ça avec 2 mains seulement et 2 pieds pour se stabiliser, après un premier séjour, on garde de l'expérience. C'est d'ailleurs très intéressant et très agréable de voir à quel point on peut être adapté à ce milieu-là. Je suis désolée, Paris, on vous entend très très mal.
4 minutes.
Merci Claudie, vous sortez de la zone, merci, à plus, ciao.
« Vivre dans l'espace n'est guère confortable, les bagages personnels sont réduits au strict minimum, 1,5 kg pour Claudie. Pour Viktor Afanassiev, le commandant de bord russe, la station spatiale internationale est même moins douillette que Mir. Trois ans après le début de sa construction, la station comprend aujourd'hui 5 modules sur la quinzaine prévue. Les segments russes sont largement inspirés de Mir, même au niveau des couleurs, tandis que la partie américaine est plus moderne. Pour la première fois dans une station orbitale, les astronautes disposent de pièces entièrement dédiées au travail scientifique. Ils ont aussi à leur disposition un tapis roulant pour faire de l'exercice et ainsi compenser la perte de masse musculaire engendrée par la pesanteur. La salle à manger et les chambres à coucher sont dans la partie russe de la station, mais quand il y a plus de 3 personnes à bord, on s'organise comme on peut, avec l'idée d'échapper aux 75 décibels ambiants.
Nous voilà entrés dans le SGB, module construit par les Russes, mais qui appartient aux Américains et qui est essentiellement un grand hangar où on peut ranger derrière ces panneaux. Tout un tas d'instrumentation ou de matériel de maintenance. C'est une longue enfilade et qui nous sert à nous, ça sert de chambre à coucher à Viktor Afanassiev et puis ça sert de salle de bain. On ferme les deux écoutilles de part et d'autre et c'est là où on peut avoir un petit peu d'intimité. C'est un peu le problème de la station actuellement, elle n'est pas complètement faite pour assurer une vie tout à fait confortable. Donc là, au-dessus justement des coutilles, je vous montrerai les serviettes de bain. Enfin, c'est la partie salle de bain de cette station, avec même le miroir pour se raser et faire sa toilette. Ça, c'est ma chambre à coucher. J'habite dans l'air loge. J'ai eu la grande chance d'être accueillie dans le module américain de la station. Et c'est très tranquille. Il n'y a aucun bruit, alors qu'il y a 75 décibels ambiants dans les autres modules. Moi, j'ai la chance d'avoir un environnement très, très calme. Dans cet airlock. C'est pas très bien rangé parce que c'est quand même un endroit où on a entassé des tas de choses quand il n'y a pas de sortie extravéhiculaire, mais je suis en bonne compagnie parce que je dors avec les deux scaphandres américains qui me protègent pendant la nuit. Les voilà à côté de moi.
Là, la journée est en train de se terminer. Je suis installée dans ma chambre à coucher. Alors hier soir j'ai dormi transversalement contre un mur. Aujourd'hui je vais me mettre de haut en bas parce qu'en fait j'étais pas très loin du ventilateur et c'était pas tout à fait agréable. J'ai pas dormi d'une façon optimale. Il faut que je me repose aujourd'hui. Donc là je vais m'installer et fixer mon sac de couchage un petit peu plus. Les 9h du soir, ce samedi 28, je crois qu'on va aller se mettre à table. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je sais pas. Je crois que je vais aller chercher dans mes réserves des macaronis au fromage. On a de la nourriture très variée ici. J'ouvre les coutilles pour rentrer dans mon compartiment. Une nourriture très variée, une nourriture américaine, une nourriture russe. Peut-être ce qui manque, c'est des desserts. On pourrait dire que pour tout le reste, c'est vraiment très... Il y a beaucoup de choses, mais les desserts se font un peu rares. On a du pain, on a des boissons de toutes sortes, en particulier des boissons, thé, café, des jus de fruits, de l'eau claire, bien sûr. C'est vraiment très, très agréable. Je suis en train de chercher au fond de mon sac à réserve mes macaronis. Ça y est, je viens de les trouver. Et j'ai même du café pour demain matin. Du café pour ce soir. On a du café décaféiné, avec ou sans sucre. Des tas de choses très sympathiques. Comme on s'installe en général tous autour de la table. Chacun a mis à l'avance, a choisi dans le placard les mets qui lui faisaient envie. Les a mis à chauffer, soit dans le petit four américain, soit dans le... le four également russe. Ce sont deux types de fours différents et qui marchent très bien les uns comme les autres. Ils font environ une quinzaine de minutes pour que ce soit chaud. Et quand on est prêt, eh bien, chacun prend ses couverts. On a tous notre petite, non pas une serviette, mais en tout cas les couverts individuels. On s'installe et on démarre le dîner.
Под Лигусские камеры другое, под HDTV это третье.
Вот. Да,
система настроена под HDTV и маленькую камеру.
Ce qui est vraiment superbe, c'est de se laisser glisser tout au long de cette station très longitudinale. On part un bout et en tirant presque une seule fois sur ses bras, on peut se projeter 20 mètres plus loin pour arriver au bout du laboratoire. Ce qui est très marrant aussi, c'est l'utilisation de toutes les parois. C'est marrant, tout à l'heure, je suis arrivée au bout du long couloir du FGB. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, au-dessus de ma tête, il y avait Micha en train de faire des exercices physiques. Et puis, en face de moi, Franck, vertical par rapport à moi. Enfin, si on peut dire ça, moi j'étais à l'horizontale, puisque je glissais dans le couloir. Et ça fait un drôle d'effet, un choc de voir deux personnes, l'une tête en haut, l'autre tête en bas, qui sont en train de travailler, tout simplement, sans faire attention à l'un à l'autre, leur positionnement l'un par rapport à l'autre. Et ça fait un petit peu une impression d'inversion soudaine du cadre de référence, selon que j'allais me mettre dans le même sens que Michin ou dans le même sens que Franck. Et c'est toujours surprenant de voir à quel point on se construit des images, à quel point on résiste un peu à la transformation de ces images. On peut y arriver, il faut du temps, bien sûr qu'on peut y arriver.
On va quand même pendant ces 10 jours de mission s'intéresser aux deux phénomènes qui sont tout de suite sensibles. Le système cardiovasculaire, c'est vrai qu'on a la tête un petit peu gonflée, vous voyez nos visages qui sont un petit peu modifiés par rapport à nos visages habituels. Donc on va faire des études sur la régulation de la pression artérielle et puis faire des études sur la façon dont notre cerveau peut mieux se représenter cet espace dans lequel il doit s'y passer et qui est très nouveau par rapport à ce qu'il connaît habituellement. Donc là, juste après cette conférence, j'installe l'appareillage pour démarrer l'étude de ces mécanismes. Et je viens de terminer déjà une partie d'étude de biologie avec des pleurodelles et des xénopes.
À l'initiative du CNES, la mission Andromède comporte un programme scientifique chargé. 10 expériences au total, dont l'étude du comportement des xénopes et pleurodelles, autrement dit des grenouilles et des salamandres. Les trois cosmonautes sont unanimes à ce sujet. Grâce à l'ISS, on fera de la meilleure science dans l'espace. Objectif, comprendre l'adaptation physiologique et psychologique du corps humain à la pesanteur afin de préparer les futures missions très lointaines. Bien sûr, on pense à Mars.
De la terre qui sort de la nuit, des couleurs rosées du lever de soleil sur la cordillère des Andes, des couchers de soleil très majestueux, des levées de lune à l'horizon de la terre. On a une demi-lune en ce moment, elle paraît vraiment sphérique et non pas ronde comme on la voit sur terre. C'est quelque chose qui m'a frappé La première lune que j'ai vue en arrivant en orbite, c'est que c'était non plus un disque, c'était vraiment une sphère. Je ne sais pas d'où nous vient cette impression de sphéricité. Peut-être parce qu'on est au-dessus de l'atmosphère. Ce n'est pas nos 400 km de distance qui nous rapprochent vraiment de la lune, en fait. C'est une façon de la voir. Et puis c'est vrai qu'on voit la rotondité de la Terre, on se rend compte que c'est une sphère là aussi. Donc on voit aussi la rotondité de la lune. Tout ça, c'est vraiment plein de magie, plein de poésie. Ce sont des images de calme, on pourrait dire, même si parfois ça correspond au sol, à des images de pollution, des feux de forêt, des choses qui détruisent la planète. Nous, on les voit avec un œil ralenti. on n'est pas dans l'urgence de ce qui se passe au sol, on est au-delà, détaché par la distance, prenant du recul avec le regard, pas détaché des événements qui surviennent sur la planète. Et là, Franck vient de me faire lire les nouvelles et j'ai lu cet affreux accident dans ce tunnel suisse. Donc, on n'est pas du tout détaché de tout ce qui est dur, douloureux au sol, mais c'est vrai qu'on avance avec cette immense structure lentement, majestueusement autour de la planète, que à l'intérieur de cette structure tout va vite, tout le monde s'active parce qu'il y a beaucoup de travail. Et quand on arrive à prendre du temps pour avoir l'œil par la fenêtre, hop, on change de rythme, on va au rythme de notre défilement autour de cette planète, et on ne peut s'empêcher tous d'être émerveillés.
Jean-Pierre Aigneret, le mari de Claudie, astronaute lui aussi.
Tout cela est empreint de très forts contrastes et c'est un petit peu la beauté et la magie de notre métier. C'est que souvent on est assis entre le rêve et la réalité. Vous savez que les jeunes maintenant, du fait des nombreuses fictions, des illusions et des simulations qu'on leur donne au travers du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo, confondent un peu souvent la réalité et la vie. Nous, on a la chance de non pas d'essayer de reproduire les rêves dans la vie, mais c'est le contraire, c'est que c'est notre travail qui est exactement correspond aux rêves et à ce qu'on vient chercher. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, on est très vernis.
Et la petite Carla, sera-t-elle là demain pour accueillir sa maman?
Elle sera à l'aéroport, certainement, oui. Je pense que les deux, la maman et la fille, sont très heureuses de se revoir, bien sûr. Et d'ailleurs, avant de partir, dimanche dernier, on a fait pour sa maman un dessin où on a dessiné une fusée au décollage, une fusée Soyouz, on a dessiné le vaisseau Soyouz en orbite, on a dessiné la maman en scaphandre, et puis l'atterrissage, la capsule sous son parachute. Et donc, je crois qu'elle comprend bien, de ce dont il s'agit. C'est vrai aussi que avoir communiqué, l'avoir vu dans l'espace, elle comprend bien tout ça malgré son jeune âge, et j'espère que ça restera pour elle un souvenir extrêmement fort et pérenne.
Je suis heureuse que tu sois là, que tu vois. Regarde, on est bien arrivé avec Victor, avec Constantin.
Mais comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison?
Comment tu arrives à rentrer? On a frappé à la porte. Et puis là, nous attendait
Franck,
moi le tien, Micha. Et ils nous ont ouvert la porte et on est rentré. Et tu nous vois maintenant, on est dans la station.
Je t'embrasse. Au revoir, à bientôt.
Au revoir. Quand...
Je crois qu'elle a bien compris que j'avais un métier un petit peu particulier. Elle a eu l'occasion de visiter le centre d'entraînement. Mais tout va bien. Elle est très entourée par la famille. Je l'ai eu hier soir au téléphone et elle m'a demandé « C'est pas encore fini, tu n'as pas encore un avion pour rentrer. » Donc elle attend que je trouve un avion pour rentrer.
Okay. We're just debating whether to do something on KU or Russians want us to wait and not do anything at all on TV until they get it in an hour.
Tout à l'heure, j'ai répondu à des mails qui me sont parvenus avec quelques questions en particulier. Une des questions, c'était justement, avez-vous encore des rêves? Et j'ai répondu en disant, depuis que je suis à bord de l'ISS, non, j'ai pas encore rêvé, mais c'est peut-être parce que je vis dans mon rêve.
Как дела?
Добрый день всем. Все хорошо. Не успели.
Так, ребят, мы передаем связь премьер-министру Франции.
О, пропала картинка.
Алло.
Только у вас есть?
Bonjour, monsieur le premier ministre.
Allô?
M'entendez-vous à bord de la station spatiale internationale, monsieur le premier ministre? Nous vous saluons. Oui, monsieur le Premier ministre, nous vous entendons ici à bord de la station spatiale internationale. M'entendez-vous?
Oui. Je crois que je vous entends.
Avec la modernisation des moyens de communication, les astronautes consacrent de plus en plus de temps aux liaisons avec le sol. Chaque matin, ils reçoivent leur planning de travail. Au cours de la journée, ils envoient leurs données, même des films, sans oublier les médias.
Я думаю, что уже нету связи.
Президент Путин попросил передать привет.
Claudie a été particulièrement sollicitée, peut-être parce qu'elle est la première femme à séjourner dans la nouvelle station. Elle a même essayé de dialoguer avec Lionel Jospin. Cela fait désormais partie du travail d'astronaute, convaincre les politiques de l'intérêt du vol habité pour obtenir un soutien et donc des budgets.
Ce qui est très intéressant à bord, c'est quand même les moyens de communication qu'on a avec le sol. Ça, c'est très différent de ce qui existait sur Mir. D'abord, on est en liaison presque permanente avec le sol par l'intermédiaire de Houston. Et puis, quand on passe au-dessus des stations sol de la Russie, des stations de communication, bon, bien évidemment, on n'utilise pas la ligne tout le temps. Mais si on a un souci, il suffit de demander la parole et on peut poser notre question et on a la réponse assez vite, ce qui change beaucoup la vie par rapport aux 10 minutes toutes les orbites qu'on avait côté russe sur la station Mir. Et il fallait parfois attendre très longtemps avant d'avoir la réponse à un souci qui était pressant. Le deuxième élément, c'est bien sûr le téléphone à bord. Ça fait 2 jours que je peux appeler ma petite fille à la maison. Et puis Jean-Pierre, bien sûr. Donc ça, c'est bien agréable. Il commence à prendre l'habitude. Et le troisième élément, c'est les emails. Alors j'ai donné une liste d'adresses mail de mes amis proches. Et je peux leur écrire, ils m'écrivent. Et bon, ça nous fait plaisir aux uns comme aux autres de pouvoir communiquer comme ça. On peut échanger des images, descendre des images par fichier mail. On peut, sur le réseau américain, descendre des films et des grosses quantités de données assez rapidement. Donc tout ça, c'est assez étonnant par rapport à ce qu'on connaissait. C'était bien connu côté américain sur le shuttle, mais on ne connaissait pas trop sur Mir. Donc ça donne des nouvelles possibilités à la science, parce qu'on peut télécharger des programmes, redescendre des données, donc interagir beaucoup plus entre le sol et le bord. Allez, c'est mon dernier jour, il aurait fallu que je ramène des photos, il aurait fallu que je ramène des films, et puis vous dites ça a passé vraiment trop vite, 8 petits jours comme ça en orbite, c'est quelque chose de très important dans la vie, mais on n'a vraiment pas le temps de tout faire, et c'est un petit peu le sentiment que j'ai ce matin. Puis voilà, c'est terminé, et il y avait encore plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à rapporter, surtout à tous, qu'on n'a pas eu le temps d'attraper. Une petite poussière qui nous en échappait, un peu comme si on avait un trésor dans la main et puis qu'on n'arrive pas à tout prendre pour tout vous ramener. C'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai ce matin. Mais bien évidemment, j'aurais dû m'en douter. Je ne pouvais pas tout faire en aussi peu de temps. Et manifestement, sur les vols de courte durée, on reste toujours un petit peu sur sa soif. Un vol de longue durée, je pense que ça permet de mieux prendre son temps, de mieux structurer ce qu'on a à faire et d'être vraiment complètement satisfait. Là, il reste un petit goût d'amertume. Par exemple, cette fois-ci, j'ai vu peut-être en tout et pour tout 3 levées de lune, parce que j'ai pas eu le temps de regarder la nuit. J'en ai pas vraiment profité cette fois-ci, la nuit et le cosmos la nuit. J'ai pas vu la Voie lactée, j'ai vu des étoiles. Donc voilà, un petit peu, je suis triste parce que je m'en vais, je crois. C'est tout simple. Quand on a passé des bons moments dans un endroit, dans une maison, on est toujours triste de partir. Alors les bagages sont presque finis. Il me reste encore quelques petits éléments à ranger parce que j'ai pas tout à fait terminé les expériences. J'en ai encore 2 ou 3 ce matin. Et puis on range la dernière boîte. Et puis... On va dire au revoir sur Terre, dire au revoir ici. Entrer dans notre vaisseau, fermer les coutils, vérifier l'étanchéité, puis commencer toutes les procédures de réentrée. Voilà mon sentiment ce matin. Un peu triste d'une journée qui va passer trop vite. We'll be right back.
Et voilà, on revient sur Terre, nous aussi. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette émission hors du commun. Merci à Claudie Aigneret, bien sûr, qui a su nous faire partager son aventure spatiale et à qui nous souhaitons la même réussite dans ses aventures ministérielles. Merci à Julien Guillaume, Alain Labarthe et Lionel Suchet du CNES. Bravo à Sophie Becherel, spécialiste des questions scientifiques à France Inter, qui a eu l'idée de ce reportage. Catherine Potier, qui était au Kazakhstan. Marc Fauvel et Pascal Dervieux à Moscou. Et Cécile Évrard à Paris. Interception dans les étoiles, Claudie Aigneret, reporter spatial. Réalisation signée Anne Lioreau, assistant Julien Cernobori, mixage Jean-Michel Bernot, une émission préparée et présentée par Simon Tivol. We'll be right back.